L'histoire nous transmet l'éminente responsabilité d'être à la hauteur.
Cette semaine, une galerie d'historiens, Jacques Le Goff et Saint-Louis.
Vous me demandez donc de parler deux minutes. Ce qui veut dire que si je parle trois ou quatre, vous pourrez arranger ça. Ou bien il vaut mieux que je ne parle que les deux minutes.
Aujourd'hui, une demi-heure avec Jacques Le Goff. Curieux de tout, il l'était évidemment, de la radio. Pendant près d'un demi-siècle, il produisit l'émission Les Lundis de l'Histoire pour France Culture. Historien, pour lui, c'était un ogre. Dès qu'il flairait de la chair humaine, il en faisait son gibier. Il était l'homme habituellement des parcours cavaliers, des grands panoramas, et on ne l'attendait pas dans le rôle du biographe. Il décida pourtant de sculpter un Saint-François et d'abord un Saint-Louis. En ce qui concerne le roi, cela relevait de l'exploit de Saint-Louis. Personne n'avait seulement songé à son époque à fixer les traits. Ce n'était pas un individu au sens moderne du terme. Il obéissait au canon du roi chrétien, puis il avait créé d'autres canons, ceux du Saint-Roi. Ses entrailles, ses os, son chef étaient devenus des reliques, mais quel être de chair et de sang avait-il été réellement? 10 ans durant, Le Goff tourna autour du modèle, scrutant les documents, cherchant les gestes, les propos qui sentaient le vrai, et il produisit un monument de 1000 pages qui lui coûta d'ailleurs la santé. Au moment de sa parution, en 1996, il donna des entretiens à André Velter, Laure Adler, Philippe Tesson. Nous en avons assemblé des extraits pour composer cette émission.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Onc, le bon roi Louis gouverna son royaume de France l'espace de longtemps, jusqu'en 1270. Mais ses débuts furent difficiles. Son grand-père, Philippe Auguste, qu'il admira, lui laissa le prestige de Bouvines, 1214, un royaume de 10 millions d'habitants, un trésor bien alimenté, mais son père, Louis VIII, on ne numérotait pas encore vraiment à l'époque, mourut précocement, en 1226, fragilisant l'héritage. Un roi de seulement 12 ans, c'était une menace pour la tradition dynastique à peine établie. Jacques Le Goff.
Un roi enfant, pour les gens du XIIIe siècle, c'est une chose terrible. Il a donc fallu se poser le problème, parce que les clercs d'abord, mais ça va jusqu'au peuple, ont en souvenir la phrase de l'Ecclésiaste, « Malheur à la ville dont le prince est un enfant ». Un enfant, il peut difficilement le rôle qu'a le roi dans une monarchie chrétienne où il est l'image de Dieu et où il doit avoir la capacité pour plaider pour son peuple auprès de Dieu lui-même. Donc, il y a le problème de cet enfant. Il y a autour de lui un certain nombre de ses conseillers qui ont été les conseillers de son père, qui sont des gens âgés, les conseillers de Philippe Auguste, et qui, il faut bien le dire, règlent bien les choses, car c'est eux très probablement qui sont allés chercher, si je peux dire, Blanche de Castille, la veuve, pour en faire non pas la régente, le terme n'est pas de l'époque, mais la gardienne du roi et la tutrice du royaume, car on présente une Blanche de Castille qui se sera en quelque sorte imposée. Elle va se révéler comme une femme d'un caractère extraordinaire, mais elle va le faire rapidement, mais quand même petit à petit. Et il trouve donc cette solution. Tout de suite, d'ailleurs, ça fait démarrer un cas extraordinaire qui a terriblement pesé sur la vie de Saint-Louis et sur son action. C'est le couple extraordinaire qu'il forme avec sa mère. Et si Saint-Louis a contre lui son âge, c'est le roi enfant. Elle a contre elle quelque chose qui est très important dans la France du XIIIe siècle, et d'ailleurs déjà avant. C'est une étrangère, et on ne le lui envoie pas dire. Elle est l'étrangère, de plus, une étrangère. Si les textes le soulignent, c'est parce que sûrement, ça a été remarqué, ça lui a été, je dirais, d'une certaine façon presque reproché, physiquement. Elle a des cheveux très noirs, dans un pays où ce sont encore les germains blonds qui tiennent le haut du pavé esthétique, si je peux dire. Et ça, Saint-Louis aura une très grande chance. Il sera grand, blond, il est tout à fait dans la belle lignée des nobles du Nord et des Capétiens. Et elle montre peu à peu une très grande énergie, mais dans ce rapport, encore une fois, tout à fait exceptionnel, entre Saint-Louis et sa mère, parce que il a pour elle une immense affection, et il ne veut en rien la blesser. Donc, il lui laisse du pouvoir, mais il ne passe pas sous ses fourches codines. Et j'ai cru pouvoir déceler que très jeune, dès 14-15 ans, contre ses avis, il impose ses points de vue.
C'est donc un couple extraordinaire. Jacques Le Goff parle même de co-souveraineté. C'est un cas unique dans les annales de la royauté. Blanche, il est vrai, a toutes les qualités d'un homme, à quoi elle joint les défauts d'une virago. Elle est intransigeante et elle veut faire de son fils un roi chrétien idéal. Ainsi, elle l'aurait préféré mort plutôt qu'en état de péché mortel. De là à dire qu'elle l'est programmé pour devenir un saint...
Il me paraît sûr, nous n'avons non seulement aucun texte, mais il me paraît peu vraisemblable, qu'il ait songé à être saint. Il était trop chrétien pour penser à cela, qui est scandaleux. Ce serait en quelque sorte blasphématoire de se croire capable de parvenir à un saint, et ça, il y a la vox populi, la vox dei, et plus concrètement, la curie pontificale, qui décide si l'on est saint ou non. Mais il a, sans aucun doute, et là nous avons, je dirais, des preuves, voulu s'approcher autant que possible, incarner autant que possible, le roi chrétien idéal. Eh bien, le roi chrétien, c'est un roi qui montre par ses apparences, par ses gestes, ce qu'est justement un roi chrétien qui, sans avoir le caractère sacerdotal et sacré que les empereurs byzantins à la même époque ont cherché à avoir, c'est malgré tout quelqu'un qui sait que dans l'ecclésiologie chrétienne, le roi, c'est justement une figure, et que pour la remplir, il faut une mise en scène. Alors, Saint-Louis, en qui on voit un modèle total de vertu, il avait le sang très chaud, mais obéissant à l'Église, il n'avait de rapport qu'avec son épouse, avec la reine, et pendant les temps où c'était permis par l'Église. Mais voilà que Saint-Louis, qui avait donc le sang très chaud, se mêlait d'aller voir la reine dans la journée. Alors à ce moment-là, notre Blanche de Castille arrivait pour mettre le holà, si bien que Saint-Louis faisait mettre un sergent, un homme d'armes, en bas de l'escalier qui montait à la chambre de la reine, et quand mon Blanche de Castille arrivait, il criait « Attention, attention, voilà la reine-mère !» Une autre histoire, il y en a plusieurs, mais je trouve celle-là très jolie. En fait, Saint-Louis aimait rire, mais là encore, il y a un problème, qui est le problème de la religion. Le rire était très mal vu depuis l'idéal monastique du haut Moyen-Âge. Alors, ses confesseurs et son entourage de dominicains et de franciscains lui avaient donné le bon moyen. Il ne devait pas rire le vendredi, comme une façon de faire maigre, vous voyez, maigre de rire. Mais il lui arrivait malgré tout de se surprendre à rire le vendredi. Alors à ce moment-là, il était très malheureux et il se flagellait.
J'espère que mes paroles ne vous ont pas offensé, frère Guillaume. Mais j'ai entendu rire et j'ai rappelé un des principes de notre règle. Certes, vous, franciscains, vous venez d'un ordre où la gaieté la plus inopportune est vue avec indulgence.
Oui, c'est vrai. Saint François, parfois, ne répugnait pas à rire.
Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe.
Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme.
Comme le péché. Le Christ n'a jamais ri.
En sommes-nous si sûrs?
Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur ait ri.
Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur n'ait pas ri. On sait que les saints eux-mêmes usaient de la comédie pour ridiculiser les ennemis de la foi. Par exemple, quand les païens mirent Saint-Maur dans l'eau bouillante, celui-ci se plaignit que le bain était trop froid, le sultan y plongea les doigts et s'ébouillant à la main.
Un saint immergé dans un bain bouillant n'a pas de ses puérilités ridicules. Il retient ses cris et souffre pour la vérité.
Ça, c'est un extrait du Nom de la Rose. Le Goff aurait aimé qu'on glisse dans le tombeau, qu'on lui dresse aujourd'hui une facétie. Le père abbé du Nom de la Rose, selon Anneau, C'est pas du tout le registre de Saint-Louis qui n'est pas dans cette intransigeance caricaturale. Souvent donc, Le Goff le répète, il rit moult clairement, il a de la gaieté, de l'entrain, au moins dans la première partie de sa vie. L'imagerie l'a montré sous son chêne de Vincennes, c'est que l'été, il aime à s'asseoir par terre avec son proche entourage, chacun peut l'approcher pour lui soumettre ses affaires. Néanmoins, puisqu'on parle de justice, la justice de Louis peut être sévère, plus sévère même que celle de ses prédécesseurs. Par exemple, quand il s'agit des Juifs. Les Juifs l'embarrassent bien plus que les musulmans. Avec les musulmans, il lui arrivera de dialoguer. Les Juifs, il ne peut pas comprendre qu'ils soient dedans et qu'ils soient dehors. Et il ne tolère pas davantage les blasphémateurs.
Il y a des choses qui ne sont pas bien chez lui, hein. Il y a de la cruauté, le traitement qu'il fait subir à un certain nombre de personnes, et en particulier à des blasphémateurs. Il fait entourer, n'est-ce pas, leur visage d'entrailles de tripes de porc. Il y a des choses qui sont très déplaisantes chez le personnage. Pour les Juifs, c'est très difficile à dire. D'abord, je le dis très nettement, écartons antisémitisme. L'antisémitisme, je crois qu'il faut le réserver à ce qui se passe au partir du XIXe siècle, avec les théories scientifiques, si je peux dire pseudo-scientifiques. Antijudaïsme est insuffisant, parce que l'antijudaïsme, il est à l'état latent dans l'Église chrétienne au Moyen-Âge, c'est-à-dire limité aux religieux. Ce qu'il avait, malheureusement, selon l'esprit de l'époque et qui ne me plaît pas non plus, c'est qu'il avait l'idée presque de la pureté, non pas de la race, Dieu merci, non même pas la pureté du sang, comme on dira en Espagne à la fin du XVe siècle, mais la pureté d'un royaume chrétien. Et à cet égard, les Juifs représentent un élément d'impureté dans le royaume. Et nous savons que si d'autres persécutent les Juifs, il n'y en a pas qui disent, et ça, je suis à peu près sûr qu'il l'a dit, il a dit « je ne peux pas les sentir ». Il est hanté par l'idée du tombeau du Christ, par l'idée de Jérusalem. Et puis, il a encore cette idée, et il est un des derniers à l'avoir, que le territoire de la chrétienté, parce qu'il y a aussi des espaces, hein, il y a des temps, pour lui, ce n'est pas une conquête, c'est une reconquête, comme en Espagne. Les musulmans, pour lui, ne sont pas chez eux. Et les Juifs ayant laissé passer le Messie, n'y sont pas non plus. Il faut dire qu'il y avait très peu de Juifs. En Palestine cette époque, et que c'est essentiellement les musulmans qu'il a contre ça. Alors, ça a été très important parce qu'il croit que c'est ce que probablement un chrétien peut faire de plus héroïque. Ceci dit, je suis un peu d'un avis différent de ceux des historiens ayant écrit sur Saint-Louis qui placent la croisade absolument au centre de la vie, des intérêts, du règne de Saint-Louis. Je ne le pense pas. Je pense que c'est cette idée du roi chrétien idéal dont la croisade fait partie.
En 1248, au Grand Dame de Blanche de Castille, Saint-Louis décide de se croiser. Sa croisade, dit Le Goff, c'est l'entrée en Méditerranée du royaume capétien dont le domaine, jusqu'ici, n'avait pas encore atteint cette mer, la mer de tous les dangers qu'il faut affronter sur des bateaux fragiles, conduits par des matelots dangereux, cette engeance pécheresse. Saint-Louis débarque vaillamment en Égypte, il plonge tout armé aussitôt que la côte est visible, avant même de l'atteindre. Mais la croisade tourne vite à la catastrophe. C'est un preux chevalier, mais un piètre stratège. Et en avril 1250, voilà qu'il est fait prisonnier. Être fait prisonnier, dit Le Goff, c'est le pire malheur pour un roi. Être fait prisonnier par les infidèles, c'est le pire malheur pour un roi chrétien.
Tout est désormais convenu et accepté par le sultan. Et votre frère Poitiers restera comme otage, jusqu'à remise de Damiette et parfait paiement de la rançon.
Mes pauvres frères, je vous conduisais à la gloire, et voici qu'Artois est mort, que Poitiers sera otage et en joue dans ma prison. Attends de récentes nouvelles des barons.
Le connétable de Beaujeu est mort, sire. Pierre de Bretagne agonise.
Que dira notre mère?
Notre mère dira ce que vous dites, mon frère. Dieu avait tout donné et Dieu a tout repris. Loué soit son saint nom.
Loué soit-il.
Oh, ce n'est rien.
20 000 de nos frères sont morts, et 12 autres 1 000 sous la coupe des païens. Il est juste que le roi soit tenaillé de douleur.
Sire, je ne vois personne de vos gens souffrir ce que vous souffrez.
une fois qu'il a été relâché par les musulmans en Égypte, de Terre Sainte, il envoie, ce qui est un acte tout à fait curieux, une lettre à ses sujets qui est lue dans les églises où il explique ce qui s'est passé. Et quand il rentre après la croisade en 1254, il est très abattu et il pense qu'il va être très mal accueilli. Et il est stupéfait de voir au contraire avec quelle dévotion, quelle affection, c'est un triomphe son retour. Et alors il m'est apparu, et je crois que là, je crois que c'est juste ce que j'ai dit, c'est que le roi est le représentant de Dieu sur terre, et en particulier le représentant du Christ. Or, l'image du Christ, qui était devenue l'image fondamentale à son époque, ce n'est plus celle du Christ roi, ce n'est plus celle du Christ victorieux de la mort, mais c'est celle du Christ de la passion, du Christ souffrant, de l'homme de douleur, celui qui est mort sur la croix, et Saint Louis apparaîtra comme l'incarnation de ce Christ de la passion. Et ça, le Christ, c'est la forme vraiment incarnée, le Christ c'est l'incarnation, la forme vraiment incarnée de la divinité pour Saint-Louis. Je crois que les sentiments de Saint-Louis devant la couronne d'épines ont dû être d'une intensité extraordinaire. D'une intensité extraordinaire parce que ça réunit et ça fait culminer un certain nombre de pulsions fondamentales en Saint-Louis. D'abord, dans ce culte des reliques, c'est la relique des reliques. Et on ne peut pas avoir mieux. Pour un chrétien, il n'y a pas mieux. Je suis persuadé qu'il y a un petit quelque chose de la satisfaction d'avoir fait un bon coup. Parce que avoir acquis cette relique qui était chez les Byzantins, qui avait été déposée auprès de marchands vénitiens qui avaient prêté de l'argent à l'empereur de Byzance et qui était convoité, etc., l'a raflé, je dirais, au nez et à la barbe du reste de la chrétienté, c'était un coup. Et puis, c'est la couronne qui a touché le Christ, qu'il a eu sur la tête. Toute faite d'épines qu'elle soit, c'est une couronne. C'est-à-dire qu'elle renforce encore l'image du pouvoir monarchique. Le roi qui possède la couronne d'épines est digne d'avoir sur sa tête la plus belle couronne de la chrétienté.
Cette couronne d'épines, achetée à grands frais et à grand tracas à Constantinople, il lui a construit, juste avant la croisade, un abri digne d'elle, c'est la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle a été inaugurée avant le départ pour Aigues-Mortes et l'Égypte, en compagnie de la reine-mère Blanche. C'est la dernière fois qu'il la voit et il devine que la couronne d'épines sera aussi la couronne du roi pénitentiel, du roi du deuil qu'il va devenir. Cet Ave Verum Corpus de Mozart, avec Ghislaine Roux, a été enregistré à la Sainte-Chapelle.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le Saint-Louis de Jacques Le Goff, aujourd'hui, peu après la disparition du grand historien qui a consacré à Saint-Louis un monument en 1996. Revenons au XIIIe siècle. Blanche est morte en 1252, alors que Saint-Louis prolonge son séjour en Terre Sainte, Jérusalem, hors d'atteinte, sa mère morte, les deux deuils de Saint-Louis, Rex Ingliriosus, Rex Tristis, roi pénitentiel, et dit Jacques Le Goff, roi eschatologique aussi, en ce sens que son devoir sera désormais de faire régner ici-bas la justice dans la perspective des derniers temps qui vont venir. C'est le sens de la grande ordonnance de justice qu'il va rendre en 1254, peu après son retour. Les derniers temps, encore une fois, il va partir en croisade. Cette fois, direction Tunis. Ce choix, dit Jacques Le Goff, est le résultat d'une double illusion. Le sultan, croit-on, plus facile à convertir que celui d'Égypte. Et Tunis, croit-on encore, serait beaucoup plus proche de l'Égypte que dans la réalité. La voie de Tunis sera un chemin de croix. Saint-Louis mourra à Carthage en août 1270.
La tradition veut que les rois de France sont enterrés à Saint-Denis. Et c'est très important, parce que la nécropole royale, c'est un des centres du pouvoir dynastique et royal. Et qu'il y manque un roi, et un roi important, c'est un affaiblissement de la monarchie. Mais il y a le frère de Saint-Louis, Charles, roi de Charles d'Anjou, roi de Sicile et de Naples, qui voit tout de suite l'intérêt à avoir le corps de son frère, dont il est persuadé qu'il sera canonisé, qu'il deviendra saint. Et lui, à Sicile, il y a juste le faible détroit de Sicile entre la Tunisie et la Sicile à traverser. Il dit au jeune roi, son neveu, écoute, c'est pas possible d'aller emporter ton père à Saint-Denis, c'est une folie. Mais moi, dans la belle église de mon palais à Montréal et près de Palerme, je vais faire construire une chapelle formidable où je mettrai ton père. Mais, vraisemblablement conseillé, Philippe III ne démord pas, il dit pas question, papa, il faut qu'il aille à Paris, et alors arrive cet extraordinaire cortège qui a duré 9 mois. Alors, d'abord, les chrétiens n'ont pas les techniques, les savoirs requis pour embaumer le corps et le conserver tout entier. Donc, il faut le dépecer, on fait bouillir les chairs, on les enlève, on garde les entrailles et le cœur. Alors là, quand même, les entrailles, on les donne à Charles d'Anjou et elles sont à Palerme. Il reste les os qui sont la chose la plus précieuse. Vraiment, la vertu d'un homme, et en particulier d'un saint, c'est dans les os. Il y a donc cet extraordinaire cortège funèbre et les ossements de Saint-Louis commencent à faire des miracles.
Nous, Guillaume de Flavacourt, archevêque de Rouen, Guillaume de Grès, archevêque d'Auxerre, Roland de Palma, évêque de Spelette, et Jean de Sannois, frère cordelier, réunis en chapitre de l'abbaye de Saint-Denis, aux fins d'établir l'éventuelle sainteté du feu roi de France, Louis le IXe. Et commençons aujourd'hui l'audition de Jean, sire de Joinville et sénéchal de Champagne, pour qu'il nous donne son témoignage sur tous les actes et paroles du feu roi qui demeurent en sa connaissance.
Vous pouvez vous asseoir, sénéchal.
Seigneurs évêques, pour parler du saint roi, je devrais être à genoux.
Vous allez vite pour la sainteté, sénéchal. Notre apôtre de Rome en décidera sur le rapport qu'il nous a chargé d'établir. Nous savons quel grand roi il fut.
Alors vous m'accorderez d'en parler debout, ainsi qu'il convient pour un roi.
Quels furent ses bienfaits, ses vertus, sa vie et sa mort, très édifiantes. D'autres déjà nous ont fait son éloge, mais pour entrer dans la glorieuse phalange des saints, il faut davantage.
Moi je dis que non, rien de plus que ce que je lui ai vu faire dans les années que nous avons vécues ensemble. 6 ans au pèlerinage de la croix, seigneurs évêques, et pour les grandes peines qu'il y endura, vous le devriez mettre au rang des martyrs. Car il subit la misère du corps, la faim, la soif, la prison, comme notre Seigneur en sa douloureuse passion. Et comme lui, il mourut par la croix, puisqu'elle était sur son habit, le jour qu'il fut délivré de vivre, à Tunis. C'est bien plus qu'il n'ait besoin pour gagner sa place dans la phalange des élus.
Extrait d'une production de France Culture, dont Jacques Le Goff fut un fidèle serviteur, la complainte de Jérusalem. C'est le récit du procès de canonisation de Saint-Louis. L'intervalle entre la mort de Saint-Louis, 1270 et 1297, est assez court, enfin plus long que celui entre la mort de Jean-Paul II et sa canonisation, le 27 avril prochain de l'an de grâce 2014. Alors le temps de la canonisation, c'est un temps où peuvent s'exprimer tous ceux qui ont intérêt à la canonisation de la personne, à tel point que le pauvre roi, à certains égards, n'est plus qu'un carrefour d'intérêt. Jacques Le Goff.
J'ai fait ce travail qui a été la recherche de ce que j'ai appelé la production de la mémoire. Parce que, vous savez, nous nous imaginons que, d'une façon naturelle, nous avons recueilli des documents, ce que les historiens appellent des sources. Mais la plus grande partie, elle a été faite d'une façon très intentionnelle, pour influencer la postérité. C'est fait pour donner une certaine image. On voyait Saint-Louis en train de donner à manger aux lépreux, Saint-Louis au milieu des pauvres, des mendiants. J'ouvre la vie de Robert le Pieux, son ancêtre, deux siècles auparavant, écrite par un moine bénédictin, Helgo de Fleury, et on raconte strictement la même chose. Quand je crois l'avoir saisi se comportant comme on l'avait dit d'aucun d'autre, à table. La façon dont il mangeait, la façon dont il faisait rôtir modérément les viandes, le poisson, etc. Et je m'aperçois, en travaillant le sujet, comme historien qui cherche sa documentation, qu'on avait dit pratiquement la même chose de Charlemagne dans la fameuse vie d'Eginard, son gendre Eginard. Alors, j'ai repris toutes ces sources. Je me suis aperçu de plusieurs choses. Bon, je les savais un peu, je suis historien au début, mais là, je les ai vues véritablement dans le détail. J'ai vu d'abord que il y avait autour du roi, pour parler de lui, pour montrer que c'était un saint, des lobbies. Comme les lobbies contemporains, dont le but était précisément d'en faire un saint. Mais un saint selon leur image, selon leurs idées, pas n'importe quel saint. Alors les deux plus gros de ces lobbies, c'était le lobby des ordres mendiants. C'était les frères, les dominicains et les franciscains, qui sont des ordres nouveaux à cette époque, qui ont apporté de la modernité dans le christianisme et dans la chrétienté. Et donc, ils veulent en faire une sorte de roi mendiant. Et puis, il y a les moines de Saint-Denis. Alors, cela, d'une part, c'est des bénédictins. C'est-à-dire, c'est un christianisme plus traditionnel. Et puis, ce sont des gens qui ont cherché à avoir du pouvoir, qui en ont acquis. Et alors, eux, ce qui les intéresse, c'est la monarchie. Et ce qu'ils veulent, c'est que ce soit un roi dynastique et un roi national saint. Et puis, surtout, je me suis aperçu qu'il était... Bon, je pouvais m'y attendre. La plupart de ses biographies, ce sont des hagiographies. Qu'il était non seulement très idéalisé, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on parlait de lui, comme on avait parlé, de beaucoup d'autres personnages antérieurs. Donc, est-ce que c'était le vrai Saint-Louis ? Alors, mais je vous assure que je me la suis vraiment posée à moi-même. Est-ce que je n'ai pas été trompé par les sources ?
Oui, mais c'était tout de même Saint-Louis, le premier roi de France, à parler vraiment. Encore fallait-il qu'il eût un vrai auditeur. C'était le cas de Jacques Le Goff. Jacques Le Goff, le maître sur notre histoire, a régné l'espace de longtemps. L'éveilleur s'est éteint, mais son livre, ainsi que toute son œuvre, demeure disponible. Saint-Louis, c'est chez Gallimard. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Elisabeth Collet. We'll be right back.
Et merci à Jean Lebrun pour cette marche de l'histoire proposée en rediffusion. À noter que France Inter vous invite à retrouver tout au long de l'été le meilleur de la marche de l'histoire. Demain, mercredi 1er juillet, plongeons dans le Moyen-Âge à travers la figure de l'un de ses éminents spécialistes, l'historien français Georges Duby.